RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Brun.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Extérieure d'Espagne.
Prenons cette semaine artistique à l'émission en français avec un nouvel épisode dans lequel nous allons vous présenter la Mira Art Fair.
Je voyais tous les foires qui passent, tous les foires qui ont lieu et les foires qui n'ont pas lieu parce qu'ils n'existent pas. Et je ne sais pas si tu es en courant, mais là, par exemple, à Paris, il y a une foire axée sur Afrique. C'est à Caen, il y a une foire axée sur l'Asie et Janao, il y a une foire axée sur le Middle East. Et il n'y avait pas une foire axée en Amérique latine. Je me suis dit que c'était impossible. Et du coup, j'ai décidé de la faire moi-même avec un groupe de personnes qui m'aident, mes soutiens aussi, et les personnes aussi qui dirigent cette foire avec moi.
Manuela Rayo est une jeune professionnelle du monde de l'art. Nous avons pu la connaître pendant son passage à Arco, à Madrid. Venue de Colombie et installée à Paris, elle a créé la première foire artistique à vocation permanente sur l'art originaire de l'Amérique latine. Dans l'interview que nous avons fait avec elle, Manuela Rayo nous explique le parcours qu'elle a passé par des institutions comme le Musée du Louvre jusqu'à arriver à créer ce projet dans lequel elle est plongée, la Mira Art Fair.
Restez avec nous pour découvrir l'approche française à l'art contemporain en Amérique latine. Avant cela, comme d'habitude, le journal de l'actu avec une chronique spéciale de notre correspondante au Liban, Elsa Yazbek Charabati, cette fois-ci sur le club de lecture de l'Institut Cervantes.
Vous écoutez Contaminado, une chanson du groupe français La Femme appartenant à leur album de 2022 Teatro Lúcido, un travail écrit intégralement en espagnol.
Il faut le dire, l'Institut Cervantes de Beyrouth. Donc à la technique, Juan Morello, yo micro est dans vos oreilles, Inés Azagra et Guillermo Bravo. Y a la production, Cristina Dorado.
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieure Espagne.
Où que vous soyez.
L'armée israélienne a reconnu mercredi une grave erreur après la frappe qui a tué 7 collaborateurs de l'ONG humanitaire World Central Kitchen dans la bande de Gaza, un drame qui suscite la consternation internationale. Puissant séisme à Taïwan, au moins 9 personnes sont mortes et plus de 800 ont été blessées à Taïwan. Selon un nouveau bilan des autorités, dans un séisme de magnitude supérieure à 7 qui s'est produit mercredi, le plus puissant a frappé l'île depuis 25 ans.
Tous les décès se sont produits dans la région de Huailen, près de l'épicentre du séisme dans l'est de l'île, a annoncé l'Agence nationale de lutte anti-incendie. Trois des victimes ont péri dans un sentier de randonnée écrasé par des rochers dont la chute a été provoquée par ce séisme. Une autre victime, un chauffeur routier, a trouvé la mort dans un glissement de terrain en se rapprochant d'un tunnel.
D'abord, ce drame en Finlande. Des coups de feu ont éclaté ce matin dans une école primaire. Les faits se sont déroulés en périphérie d'Helsinki, la capitale. Un enfant est décédé. Deux autres sont blessés.
Deuil en Finlande après la mort par balle d'un élève dans une école. Un jeune de 12 ans a ouvert le feu et tué un enfant de son école à Vantaa, au nord de la capitale finlandaise, Helsinki, blessant gravement deux autres enfants avant d'être arrêté.
La police a annoncé avoir été dépêchée sur les lieux peu après 9h du matin, local, dans cette école qui accueille 800 élèves de 7 à 15 ans répartis sur deux sites. Et le suspect a été appréhendé vers 10h du matin à Helsinki. Le suspect a 12 ans et a été arrêté et placé en garde à vue.
La polémique avec les compagnies de train Ouigo et la SNCF continue.
Lo que inicialmente iba a ser una competencia, bueno, pues digamos sana, se convirtió en una guerra desde el primer minuto, ¿no? Fundamentalmente propiciada por la
Selon le ministre des Transports, Oscar Puente, la SNCF et Ouigo vendent des billets très en dessous de leur coût pour les TGV. Ils les accusent de dumping. Le dumping, c'est lorsqu'une firme étrangère ou nationale vend des produits à des prix artificiellement bas sur le prix de marché européen, c'est-à-dire des ventes à perte.
Dans une interview donnée à la radio Onda Cero, Oscar Puente, le ministre espagnol des Transports, a reproché à Ouigo, présent en Espagne depuis mai 2022, de vendre des billets très en dessous de leur coût pour les trains à grande vitesse, parlant de pratiques profondément déloyales. La SNCF se défend de tout dumping social. Ce lundi, la guerre à Gaza s'est intensifiée à cause de deux événements qui vont prévisiblement précipiter l'escalade du conflit.
Une frappe aérienne israélienne sur la résidence de l'ambassadeur de l'Iran à Damas, en Syrie, laissait 8 morts. Parmi ces derniers, il y en aurait 7 qui appartenaient à la garde révolutionnaire iranienne, dont Reza Saeedi, un des chefs militaires les plus importants du régime iranien en Syrie. Ces attaques menées par deux drones israéliens augmentent les tensions dans cette région qui est déjà assez instable avec les derniers événements. Celui-ci s'ajoute à la destruction totale de l'hôpital d'Al-Shifa dans la bande de Gaza.
De la même façon, l'attaque israélienne qui a tué 7 collaborateurs de l'ONG World Central Kitchen du chef espagnol José Andrés a généré des conflits directement avec l'Espagne qui a critiqué durement cette attaque. Nous écoutons le président du gouvernement, Pedro Sánchez.
Mi más profundo pesar por la muerte de varios cooperantes que hemos conocido hoy de la organización de ayuda humanitaria World Central Kitchen, víctimas de un bombardeo esta misma noche en la franja de Gaza.
L'Israël l'a reconnu et le mardi, l'Espagne a annoncé que le gouvernement défendrait la reconnaissance d'un État palestinien avant l'arrivée de l'été.
Es el paso necesario para que se abra un proceso político que ponga fin definitivamente a este conflicto, a la materialización real, el reconocimiento del Estado palestino.
Tout cela pendant qu'en Israël, le premier ministre Netanyahou passe sa période la plus compliquée avec des taux d'approbation populaire très bas, tandis que des manifestations contre sa personne et sa gestion se multiplient et se diversifient même parmi les secteurs les plus conservateurs du pays.
Nous passons maintenant à l'affaire Luis Rubiales. Un procès devrait bien avoir lieu dans l'affaire du baiser forcé. Le parquet qui présente ses réquisitions à l'avance en Espagne a réclamé 2 ans et demi de prison contre l'ex-homme fort du football espagnol, Luis Rubiales.
Luis Rubiales est inculpé de corruption, détournement de fonds, d'avoir été membre d'une organisation criminelle et de blanchiment de capitaux.
La Cour constitutionnelle ougandaise a rejeté mercredi un recours contre une loi anti-LGBT+, répressive votée en mai 2023 dans ce pays d'Afrique de l'Est, qui indiquait l'ONU et des organisations de défense des droits humains et entraînait des sanctions américaines.
Baptisé « Loi anti-homosexualité 2023 », le texte prévoit de lourdes peines pour les personnes ayant des relations homosexuelles et faisant la « promotion » entre guillemets de l'homosexualité. Un délit d'homosexualité aggravé entre guillemets encore est passible de la peine à mort, une condamnation qui n'est toutefois plus appliquée depuis les années en Ouganda. Le recours déposé appelait essentiellement à l'annulation de l'intégralité de cette loi d'homosexualité en 2023.
La campagne des impôts sur les revenus correspondante à l'année 2023 vient tout juste de commencer en Espagne. À partir du 7 mai, la déclaration pourra se faire par téléphone et sinon à partir du 3 juin au bureau ou dès maintenant à travers le site web. La citoyenneté espagnole a un délai jusqu'au 1er juillet pour effectuer et présenter cette déclaration d'impôts.
L'émission en français. L'actualité du monde hispanophone en langue française.
Devinette du jour, quand des Espagnols, des Libanais, des Roumains, des Moldaves, des Irakiens, des Américains, des Colombiens et des Français se retrouvent autour d'une table, quelle langue utilisent-ils ? Eh bien, l'espagnol, c'est en tout cas en cette langue que des groupes de différentes nationalités se réunissent chaque semaine à l'Institut Cervantes de Beyrouth pour un club de lecture, véritable voyage à travers le livre. Le reportage complet de notre correspondant Esayasbek Charabati.
Bienvenidas un nuevo día más al Club de Lectura del Instituto Cervantes. Esta es nuestra tercera sesión con la novela Mauricio, las elecciones primarias, de Eduardo Mendoza. Ya hemos pasado más del ecuador del libro y, bueno, no sé, ¿qué os ha parecido estas últimas páginas que hemos leído? La verdad que la historia ha cambiado mucho, ha dado un giro.
De verdad.
¿Qué os ha parecido?
Pues, entramos en un tema un poquito crítico y muy de actualidad.
¿Verdad?
Sí, porque el tema de ese pariente que vive en Israel, pues da lugar a muchas cosas y además con mucha actualidad, o sea, con todo lo que está pasando en el mundo hoy en día.
C'est ainsi que Pablo López d'Ocón commence la modération du club de lecture en espagnol qui a lieu à l'Instituto Cervantes de Beyrouth. Une fois par semaine, des Libanais, des Roumains, des Moldaves, des Irakiens, des Américains, des Colombiens, des Français, des Espagnols se retrouvent durant 2 heures de temps pour le plaisir de lire en espagnol et de discuter les thématiques des livres. Comme le souligne Dr Jumana Wardé, médecin et passionné d'espagnol.
Tout d'abord, j'aime lire. Les livres sont un outil merveilleux pour apprendre et découvrir des choses, s'évader. C'est un voyage de l'esprit vers des horizons sans limite. Le club de lecture de l'Institut Cervantes a la particularité de nous ouvrir à des cultures nouvelles et des auteurs divers d'Espagne et d'Amérique latine. C'est ce qui me plaît surtout à l'Institut Cervantes. Il y a aussi, bien sûr, le fait de rencontrer des personnes nouvelles qui ont des intérêts similaires pour la culture espagnole. C'est un moment d'évasion pour moi.
Un véritable moment d'évasion, surtout dans une région où les tracas sécuritaires, politiques et économiques sont légion. La culture espagnole et hispano-américaine permet aux participants à ce club de lecture de voyager à travers les livres et les discussions qu'ils alimentent. Chacun y trouve son bonheur, tel que l'affirme Marie Hernández Gabriel, issue d'une double culture franco-espagnole.
J'ai commencé depuis quelques sessions à aller dans le club de lectura de l'Institut Cervantes. En fait, j'avais deux buts. Le premier est de pratiquer mon espagnol, car à force de parler en français ou en anglais, j'étais en train de perdre cette langue. De plus, j'ai trouvé intéressant de connaître un peu plus les auteurs hispano-américains et ibériques, pour un petit peu voir cette littérature et au-delà de ça, la culture espagnole et sud-américaine.
En effet, chaque mois, un livre différent est traité et à travers lui, le style de l'auteur, les sujets qu'il traite et les lieux qu'il décrit. De Gabriel García Márquez à Eduardo Mendoza, en passant par Isabel Allende ou Yolanda Soler Onís, des auteurs espagnols ou hispaniques très célèbres ou plus nouveaux que les participants apprennent à découvrir au fil des mois. Avec des sujets tels que l'immigration, l'amour, la violence, la passion, en passant du Chili en Colombie, des îles Canaries à Barcelone ou à Madrid.
Alors personnellement, moi, en tant que hispano-française, j'ai voulu, et vivant au Liban et marié un Libanais, dans ma pratique de tous les jours, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, dont par exemple la mère de ma filleule qui a été au Venezuela et sa famille y est restée, ils parlaient en espagnol. De plus, au niveau de mon travail, je suis à l'Institut français du Liban. Il y a pas mal d'hispaniques aussi qui veulent prendre des cours ou soit de libanais ou soit de français. Et en parlant en espagnol, ça donne une petite touche plus personnalisée quand je parle avec ces personnes, quand elles ont un petit niveau. Ça les met beaucoup plus en confiance.
Si pour Marie Estendez Gabriel, les raisons de sa participation à ce club de lecture pour niveau avancé sont familiales ou professionnelles, pour Joumana, Wardé, c'est surtout une envie de découvrir de nouvelles cultures.
Les Libanais sont doués pour les langues. Nous apprenons 3 langues dès le jeune âge à l'école et la majorité du peuple est trilingue, arabe, français, anglais. Ça nous donne une ouverture vers le monde occidental et étranger qui est assez particulière chez les Libanais. L'espagnol, pour moi, a été un choix d'apprentissage d'une langue supplémentaire à l'âge adulte à cause, pour moi, de l'envie de parcourir l'Amérique latine et de pouvoir échanger et communiquer avec la population locale. J'ai voyagé au Cuba et j'espère pouvoir faire d'autres voyages en Amérique latine. Et puis, bien sûr, l'Espagne, je faisais presque régulièrement un voyage par an depuis que j'ai commencé l'espagnol. Et j'espère maintenant pouvoir continuer à le faire.
Sí. Ah, y ahora ah, los sí. italianos han dicho, hombre, pero era de los romanos.
Cuando yo la cantaba era...
Denominación de origen, van a pedir.
Claro, sí, de hecho en España existía una asignatura, tú tenías matemáticas, ciencias...
Un véritable moment de convivialité, de plaisir, attendu impatiemment, de semaine en semaine, pour se cultiver, découvrir de nouveaux horizons et se rapprocher grâce à l'espagnol, une langue qui lit. Elsa Yazbek-Charabati, pour l'émission en français, Radio Exterior de España.
Manuela Rayo est une jeune professionnelle de l'art colombienne qui vient de lancer son premier grand projet individuel dans la scène artistique française. Mira Art Fair est une foire d'art boutique qui propose une approche unique et qui peut se vanter d'une sélection de galeries d'artistes très intéressantes et qui apporte un nouveau souffle à l'offre artistique de la capitale parisienne. Malgré le grand nombre de foires d'art, de galeries et d'événements de grande taille qui la caractérisent, Paris attend avec impatience son ouverture, prévue pour septembre de cette année. Aujourd'hui, nous allons connaître sa fondatrice, son parcours, son projet, et nous allons découvrir comment son idée est devenue une réalité. Bonjour Manuela, bienvenue à l'émission en français.
Bonjour, merci Yam, c'est très sympa de m'inviter ici.
Bah, le plaisir est nôtre, on a confiance en que dans quelques années, il sera beaucoup plus difficile d'avoir une interview avec toi, donc on a voulu profiter de l'occasion. Alors, nous avons déjà accueilli beaucoup de professionnels du monde de l'art venus de Paris même et depuis la Colombie. On peut affirmer que c'est une relation d'amour mutuel entre votre approche artistique et cette merveilleuse ville. Mais commençons par te connaître un peu à toi et ton histoire. Comment et pourquoi est-ce que tu décides de venir t'installer à Paris?
Bon, je voulais faire un MBA à Paris. J'étais toujours attirée à l'art, même si j'étudiais sciences politiques et relations internationales en Colombie. Mais ma famille, c'est une famille d'artistes, on est connu pour l'art, et j'ai toujours connu l'art et j'adore ça. Donc j'ai décidé de venir à Paris, aller à Paris pour faire un MBA en gestion culturelle. Et mon désir, c'était retourner en Colombie, mais après j'ai commencé à travailler pour le Musée du Louvre en relations publiques. Et après j'ai bougé au Grand Palais, toujours en relations publiques. Et j'ai travaillé longtemps au Grand Palais pour les relations publiques. Je connais très bien du coup, les foires.
Donc, tu as fait un MBA donc, dans une bonne école et tu as un amour pour cette profession qui est démontré par ce parcours dans des institutions artistiques. Et voilà justement une bonne opportunité dans une de ces institutions, une des plus réputées du secteur de l'art qui est le Louvre, non seulement à Paris mais dans tout le monde. Et d'où est surgie l'idée de créer Mira Art Fair?
Bon, après de travailler au Louvre, j'ai commencé, comme je t'ai dit, à travailler pour les Grands Palais. Et du coup, là, j'étais en charge aussi des Grands Palais éphémères, de tous les événements, relations publiques, évidemment, qui ont lieu au Grand Palais éphémère. Donc, j'ai travaillé pour Paris Photo, pour FAP, la Biennale, pour Révélation. Donc, je voyais toutes les foires qui passent, toutes les foires qui ont lieu et les foires qui n'ont pas lieu parce qu'elles n'existent pas. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais là, par exemple, à Paris, il y a une foire axée sur et Afrique, c'est à Caen, il y a une foire axée sur l'Asie et Chanao, il y a une foire axée sur le Middle East. Et il n'y avait pas une foire axée en Amérique latine. Je me suis dit que c'était impossible. Et du coup, j'ai décidé de la faire moi-même avec un groupe de personnes qui m'aident, qui me soutiennent aussi, et les personnes aussi qui dirigent cette foire avec moi.
Et nous devrons attendre jusqu'à septembre, comme on disait, pour la visiter. Mais peut-être que tu peux nous raconter un petit peu plus sur l'identité de ce projet, parce que tu nous as dit que, évidemment, c'est une idée qui surgit du fait qu'il y a des foires axées sur des vastes régions du monde, comme par exemple l'Afrique ou l'Asie, mais que l'Amérique latine, alors que c'est une puissance démographique, une puissance culturelle et aussi de plus en plus une puissance économique, il n'y avait pas de foire artistique qui la représente. Mais je veux savoir plus quelle était ton optique. Comment est-ce que tu as voulu approcher l'Amérique latine depuis le point de vue des Parisiens, ou pour les Parisiens plutôt?
Oui. Donc, moi, je comprenais pas pourquoi il avait pas cette foire. Je pense que peut-être c'est l'océan qui nous divise, ok, en même temps, nous approche, qui fait la connexion entre l'Amérique et l'Europe. Et du coup, on a décidé avec le groupe des personnes qui m'accompagnent sur cette foire, faire cette foire axée sur l'Amérique latine, mais pas juste, aussi et les diasporas. Et les Caraïbes aussi. Donc, c'est l'Amérique latine, tous les Caraïbes, que c'est un peu compliqué de délimiter, mais bon, c'est l'Amérique latine, tous les pays qui parlent, qui viennent de la latine en Amérique. Bon, ça, c'est les Caraïbes et les diasporas aussi. Donc, les personnes qui sont de certaines façons engagées en un lien direct avec l'Amérique latine. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, c'est très bien répondu d'ailleurs, parce que quand on pense à l'Amérique latine, la plupart du temps, on pense un peu à l'Amérique du Sud, alors que pas du tout. L'Amérique latine, c'est beaucoup plus vaste et ça compte aussi non seulement l'Amérique du Centre, mais aussi les Caraïbes.
Tout à fait.
Donc, je vais te demander maintenant à propos des artistes qui sont un peu le centre de cette foire, les galeries et les artistes qui sont présentés. Alors, quelles sont les galeries qui vont être présentes, ou celles qui sont confirmées pour l'instant, desquelles on peut parler?
Bien, j'aimerais trop te donner la liste des galeries présentes, mais je ne peux pas maintenant parce qu'il y a un comité de sélection qui va sélectionner ces galeries présentes. Par contre, je peux te parler des comités de sélection, un point fort de la foire. On est très fiers de compter avec cette personne, des experts de l'art. Et il y a aussi quelques galeries dans ce comité. Donc, c'est deux galeries latino-américaines. Un, c'est Proyecto Moncloa. C'est une des galeries les plus importantes au Mexique, qui fait la tête aussi des comités de sélection de Sonamaco. Donc, Théo, que c'est le directeur de Proyecto Moncloa, et El Apartamento. C'est une galerie cubaine, qui c'est une très belle galerie. Elle a aussi des présences aussi en Europe, d'ailleurs à Madrid. Et donc, Christian, c'est le directeur de l'Apartamento. Mm-hmm. On a deux créatrices, c'est Laura Salas Redondo et Maylin Pérez. Laura Salas, c'est une des co-autrices de Cuba Talks avec Jérôme France. C'est un très, très, très bel livre, très bien fait. Et Maylin Pérez, c'est la co-autrice aussi avec quelques autres personnes qui ont collaboré, des Latin American Artists. C'est aussi également un très bel livre. Et bon, tous les projets à côté qu'ils ont fait, c'est incroyable. Je suis très fière de compter sur eux. Et à la fin, on a très collectionneurs. C'est aussi l'âme de notre foire. On compte beaucoup sur notre collectionneur. On a une programmation spéciale pour les collectionneurs, dehors la programmation qu'on a pour la foire. Et on a donc Barbara Newman. Mm-hmm. C'est la fondatrice de sa collection Newman Art Production Project, pardon. Et on a Et Stéphanie Vergonceau et Renaud Vergonceau qui travaillent dans les finances, mais à côté, ils sont des résidences artistiques dans tous les pays, aussi au Brésil. Et bon, ça, c'est notre trois collectionneurs qui font partie du comité de sélection.
Mmh, donc, des professionnels avec un grand parcours et beaucoup d'expérience dans la matière.
Ouais.
Et bon, qui contraste peut-être avec ta jeunesse à toi en tant que fondatrice. Mais je suis sûr que voilà, que si tout le monde qui s'est mis à travailler pour ce projet que toi, tu as pensé, c'est parce que vraiment, ça a l'air de que ça va très bien marcher. Et comme on est sûr de ça, il faut que nos auditeurs le sachent, on refera une interview lorsque voilà, les galeries vont être acceptées, parce qu'il me semble que le délai pour présenter des candidatures finit dans 6 jours ou quelque chose comme ça, non?
C'est très bientôt, exactement. C'est dans presque 10 jours, une semaine. Et on a déjà des très belles candidatures, des galeries qu'on est très contents d'avoir. Après, comme je t'ai dit, ça va passer pour le comité de sélection. Et bon, dans fin de mois, je pense qu'on pourra déjà communiquer les galeries présentes. Donc oui, ça sera avec plaisir pour nous.
Et est-ce que tu sais à peu près quels sont les pays latino-américains qui vont être représentés?
Oui. Oui, ça sera la Cuba. On aura une belle représentation du Cuba, Mexique, Argentine, Colombie, bien sûr aussi.
Ah oui.
Brésil. Et on a aussi Pérou, Chili, et à voir, mais peut-être Équateur. Et bon, ça a plus ou moins peut-être un peu plus, on verra ça.
Donc presque tous les grands pays au moins sont représentés dans cette foire, ce qui est génial. Alors bon, il faut rappeler que la foire se tiendra à la Maison de l'Amérique latine entre le 18 et le 22 septembre. Il reste encore quelques temps, mais nous vous encourageons pour l'instant à visiter le site web de Mira Art Fair, qui est d'ailleurs très beau et très bien soigné. On l'a vu et on était tous épatés dans la rédaction parce que c'est vraiment très esthétique. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil et de voir ce qui est pour l'instant confirmé. Et dans quelques jours ou éventuellement une ou deux semaines, vous aurez peut-être les confirmations déjà des galeries qui seront présentes dans cette foire qui, si je me souviens bien, c'est une vingtaine d'entre elles, non?
Exactement, on est Kievan Galerie, ça sera Kievan Galerie, et c'est aussi un de notre point fort. On est une foire très exclusive, très intime, surtout c'est très intime entre les institutions, les collectionneurs et les galeries, et on est très fiers de ça.
Je pense que vous avez beaucoup de motifs pour être fiers, donc on suivra de très près Mira Art Fair. Merci beaucoup Manuela Rayo pour le temps que vous nous avez accordé à l'émission en français, et à très bientôt sûrement.
Merci à toi, très bientôt.
Radio Extérieure d'Espagne, la voix de l'Espagne dans le monde entier.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir choisis et rendez-vous pour la prochaine émission dans laquelle nous discuterons avec Rim Fatala, professeur et journaliste chez Radio Tunis, chaîne Inter. Madame Fatala est une des responsables de l'émission en espagnol, un format très similaire au nôtre, mais pour des auditeurs espagnols intéressés par l'actualité et la culture tunisienne. À très bientôt.
Branchez-vous à Radio Extérieure d'Espagne à l'heure habituelle pour écouter l'interview d'Inès Azagra avec Rim Fatala. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne semaine et nous vous rappelons que nos émissions passées sont disponibles sur notre web rtve.es, sur l'application RTVE Audio et sur les principales plateformes de podcast. À la prochaine.
Nous vous laissons maintenant avec ce Colibri, à une chanson du producteur franco-péruvien Nicolas Cruz. À la prochaine.
Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada. voy metiendo mis piernas, yo me hundo en el musgo, voy nadando en la tierra, voy juntando mis raíces, se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz, la lengua, las sienes, el cráneo, y la nuca la siento. No me toques la rodilla, no me pises las plantas, no me toques el párpado. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada.